France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Week-end. Et ce matin, nous célébrons le plaisir de dévorer des livres dans le format poche. Un livre sur trois vendu en librairie, et même un livre sur deux si on ne tient compte que des rayons littérature générale, histoire, sciences humaines et pratiques, comme le rappelle le Figaro. Le poche, une histoire d'amour avec les lectrices et les lecteurs. Comment expliquer le plaisir qu'il procure? Comment une nouveauté passe au format poche? Quelles sont les innovations pour séduire le public? Élément de réponse avec l'éditrice Audrey Petit, l'universitaire Mathieu Letourneux et avec la journaliste Christine Ferniaud. Et vous, quel est le poche que vous aimez offrir autour de vous? Pourquoi aimez-vous ce petit format? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France. Bonjour Angèle Ferremag.
Bonjour Ali.
Chef de la guinguette d'Angèle à Paris, en cette période de célébration du Nouvel An chinois, une recette d'inspiration asiatique à partager ce week-end.
Oui, le kunji, je vous propose mon adaptation de cette recette de porridge, de soupe de riz traditionnel chinois, qui est un plat plein de bienfaits et qu'on peut même consommer au petit déjeuner.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Honorable professeur de philosophie dans le monde réel, quel est le menu de votre chronique philo?
Alors on s'éloigne un petit peu des poches, mais on se rapproche de la fin du mois de janvier. C'est la fin du mois donc des résolutions de bonne année. Donc pourquoi avons-nous ou pas tenu nos bonnes résolutions?
Bonjour Guy Métodicino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma Télérama, dans la vraie vie, qui deviendra notre ami cette semaine?
Un pauvre type qui vit dans un monde où, en fait, les livres, c'est fini.
Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
J'adorerais suivre vos cours de linguistique anglaise à la Sorbonne, mais je suis nul en anglais, donc me contente de vous le vendredi. Quel est le menu de votre chronique avec la langue?
Aujourd'hui, je vais dire beaucoup de gros mots parce que je vais essayer de réfléchir à cette nouvelle mode que vous avez peut-être remarqué au moment d'acheter les cadeaux de Noël, c'est-à-dire qu'il y a écrit va te faire voir, va te faire foutre, sale conne, sur les tasses, les assiettes, les t-shirts qu'on achète. Et pourquoi tant d'agressivité?
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
Le livre de poche est un phénomène social, n'est-ce pas? C'est un fait social d'une importance capitale. Ce qui m'a étonné aussi, ce sont les tirages des grands classiques et des anciens classiques. La vie des 12 Césars de Suétone a tiré à plus de 100 000, ça je le savais. Et je pense que depuis sa naissance, Suétone n'avait jamais tiré à 100 000. C'est d'une importance capitale. Supposez qu'un ouvrier ait envie de lire Suétone. D'abord, ça m'étonnerait parce qu'il ne le connaît pas. Et même s'il le connaissait, que faut-il qu'il fasse? Il faut qu'il aille chez des maisons spécialisées pour acheter un livre qui coûte en général assez cher. C'est-à-dire que là, il le voit chez un marchand de journaux. C'est ce qui vous explique ces tirages fabuleux. Et Rimbaud. On vient de me dire que Rimbaud a tiré à 120 000. Verlaine aussi a tiré à 120 000. C'est un moyen de culture qui est presque aussi puissant que la radio ou la télévision.
Marcel Pagnol, le 9 février 1953. Bonjour Audrey Petit.
Bonjour.
Vous dirigez le livre de poche depuis un an, une maison qui existe depuis 70 ans et qui appartient à Hachette Livre. Depuis combien de temps êtes-vous au livre de poche?
Alors, je travaille pour le livre de poche depuis 2007 et je suis salarié dans cette maison depuis 2012.
Donc c'est une vieille histoire.
Absolument.
Bonjour Mathieu Letourneux.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature à l'Université Paris-Nanterre et vous avez coécrit avec Loïc Artiaga à la découverte aux origines de la pop culture. C'est bien ça?
C'est vrai, c'est ça.
Vous me regardez dans drôle d'air, c'est pour ça que je me disais que je disais peut-être une bêtise. Bonjour Christine Ferniaud.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste et critique littéraire, vous collaborez à Libé Polar sur le site et l'appli libé.fr. Vous êtes une grande amatrice du livre de poche. Pendant 20 ans, vous avez tenu la chronique poche à Télérama. Alors, deux piliers soutiennent le milieu de l'édition, et il faut bien le dire, l'occasion et le livre en format poche. Un livre sur trois vendu en librairie et un sur deux, si on ne tient compte, comme je le disais dans l'introduction, que des rayons littérature générale, histoire, sciences humaines et pratiques. Audrey Petit?
Oui, oui, c'est un phénomène qui a pris énormément d'ampleur au fil des années, au fil des décennies. Et aujourd'hui, oui, c'est un format absolument incontournable.
Le poche fait partie de nos vies de lectrices et de lecteurs. À titre personnel, mes diverses bibliothèques sont essentiellement constituées de poches. Et vous, dans votre bibliothèque, Audrey Petit, Mathieu Letourneux, Christine Ferniaud, il y a essentiellement des poches, Mathieu ?
Ah oui, oui, essentiellement des poches. Enfin, il y a aussi des choses plus obscures quand même, je le reconnais.
Et vous, Christine, je préfère pas savoir, Christine Ferniaud ?
En plus, j'ai deux maisons avec des poches partout.
Audrey Petit ?
Des poches partout également, au bureau, à la maison, chez mes parents.
Quel rapport entretenez-vous avec le poche ? Vous nous avez envoyé, Audrey Petit, une sélection de livres de poche au bureau, et quand le carton est arrivé, j'ai l'impression qu'au bureau, c'est comme si on avait apporté une malle au trésor. Tout le monde, enfin dans le bureau, s'est précipité pour découvrir ce qu'il y avait dans le carton, avec de la joie dans le regard. Est-ce que le poche ne cesse de vous faire cet effet-là ?
C'est exactement ça, la magie du poche. Quand on découvre des maisons comme celle du livre de poche, on découvre des références, 6000 références actives, donc c'est-à-dire qui sont disponibles aujourd'hui et qui tournent en librairie. On découvre un catalogue très riche et surtout très diversifié. Mmh. Et on a effectivement cette impression de mal au trésor, ou encore, je prends parfois la métaphore du magasin de bonbons, dans lequel on pioche avec beaucoup de jubilation.
Mathieu Letourneux ?
Oui, le livre de poche a cet intérêt que c'est vraiment un format usuel, peu coûteux, qui a quelque chose de peu précieux, enfin dans ses formes traditionnelles. Il est né vraiment à une époque pour fabriquer quelque chose qui était considéré comme un livre jetable. Hein. C'était vraiment un objet qui n'était pas fait pour être conservé et qui était fait pour circuler. C'est-à-dire pour être donné après avoir été lu, pour être revendu d'occasion. Et vous avez sur beaucoup de livres de poche des années 50 des tampons avec marqué un livre échangé contre deux livres. C'est-à-dire que vous reveniez avec deux livres de poche et on vous donnait un livre de poche en échange. Et il y avait tout un marché comme ça, parce que le livre de poche a été conçu pour être un livre jetable.
Mathieu Letourneux, c'est Henri Philippaki qui lance en France en 1953 la collection du livre de poche. En Angleterre, la collection Penguin Books existait depuis 1935. Est-ce qu'on peut dater l'apparition du livre de poche à 1953, ou bien est-ce qu'il existait déjà des livres dans le format poche au début du XXe siècle ou au cours du XIXe siècle ?
Oui, il y avait des livres au format poche auparavant. Il y a eu vraiment, d'abord, il y a même eu une collection qui a été créée en 1917 par les éditions Talendier, qui s'appelait Le Livre de Poche, qui était un petit fascicule qu'ils avaient appelé Le Livre de Poche pour dire qu'il était vraiment très peu coûteux. En fait, l'invention du livre vraiment très peu coûteux, c'est Fayard qui l'a fait avec Le Livre Populaire, qui est un des premiers livres vendus à 100 000 exemplaires.
Mais ce que je trouve extraordinaire dans les débuts du livre de poche, enfin du livre en format de poche, c'est qu'il y a plein d'inédits, c'est-à-dire que c'est l'époque où les auteurs de polar en particulier, que j'affectionne particulièrement, écrivaient un livre par mois, et je me souviens d'avoir rencontré des gens comme Brice Pellman ou San Antonio qui faisaient ça à longueur de temps.
Alors oui, en effet, il y a vraiment une histoire du livre de poche comme format du livre populaire, parce que le livre populaire était considéré comme un livre jetable, et toute la littérature de genre, c'est-à-dire aussi bien le roman policier, la science-fiction, le roman d'amour, était vendue au format poche, et était vendue directement au format poche. C'est-à-dire que ce format poche était le format de première vente. Et le changement qui se produit avec le livre de poche officiel, c'est-à-dire...
Qu'est-ce qu'apporte Henri Philippaki en 1953 ?
Il apporte la possibilité de donner une deuxième vie au livre, c'est-à-dire de proposer un format poche après le format grand format. Et donc, il offre désormais une seconde vie populaire à tous les livres. Et donc, il n'y a plus cette séparation entre un format réservé au populaire qui était distribué dans les kiosques à journaux, dans les bureaux de tabac, et un format qui est désormais un format populaire, mais de livres pour tous les publics.
Et parmi les premiers livres édités, Audrey Petit, on retrouve Vol de nuit, de Saint-Exupéry, La bête humaine de Zola ou Les mains sales de Sartre. Hein.
Alors précisément le numéro 1, puisque tous les livres de poche sont numérotés. À partir du premier, le numéro 1, c'était Königsmarck de Pierre Benoît, qui venait du fonds Albin Michel, puisqu'en fait, la naissance du livre de poche s'est faite également avec ce qu'on a appelé les pères fondateurs, donc quatre grandes maisons d'édition qui étaient distribuées par la librairie Hachette, Albin Michel, Grasset, Calman Lévy et Gallimard.
Et ce qui est extraordinaire, Audrey Petit, c'est de proposer au grand public, dans un petit format, à moindre coût, des classiques. C'est assez extraordinaire. C'est ce que dit Marcel Pagnol dans l'extrait que nous avons entendu.
Absolument, c'était ça un peu la vraie révolution culturelle. C'était de proposer et de mettre au service du livre de poche des techniques d'impression, de diffusion, de prix, de format, qui jusque-là étaient réservés aux romans populaires, et de les mettre au service d'auteurs comme Sartre, Camus, Malraux, etc.
Alors c'est un format populaire qui a suscité des réactions contrastées à sa naissance. En 1953, Jean Giono parle à propos du livre de poche du plus puissant instrument de culture de la civilisation moderne. En revanche, pendant longtemps, Julien Gracq ou Henri Michaux refusent d'être publiés en poche.
Mais c'est toujours le cas pour les livres de Julien Gracq, qu'on ne trouve effectivement pas au format poche, puisqu'il avait donné des consignes très claires.
Comment vous expliquez cette posture-là? Est-ce que vous la comprenez? J'imagine que non, mais qu'est-ce qui peut la justifier?
Alors, quand on écoute les témoignages de l'époque, et puis cette fameuse querelle du poche, on appelait ça comme ça à l'époque, les détracteurs parlaient d'un droit au mépris, parlaient aussi d'une... les plus farouches disaient que le peuple n'avait pas besoin de lire Sartre ou Camus. Voilà, non, c'était vraiment extrêmement violent, d'une certaine façon.
Christine Ferniaud.
C'est extraordinaire d'imaginer ça. Mais il y a toujours une espèce de différence entre les livres qui sont vendus à une maison comme la vôtre, du livre de poche, et puis des éditeurs qui préfèrent faire leur propre poche, parce que c'est aussi... Alors, c'est pas du tout une façon de mépriser, c'est une façon de gagner de l'argent, je pense, autrement. Mais il y a quand même...
C'est plutôt ça, je pense.
Il y a quand même l'idée de garder dans la maison. C'est drôle.
De garder un patrimoine.
Mathieu Letourneux.
Pour revenir à la querelle du livre de poche, il y a vraiment une querelle. Il y a une querelle entre le Mercure de France et les temps modernes, avec d'un côté quelqu'un de très bien, Hubert Damisch, qui est un des plus grands critiques d'art, et de l'autre, des gens comme Jean-Paul Sartre, qui lui défend plutôt le livre de poche. Cette querelle, elle repose sur une question qui est vraiment fondamentale. Le livre de poche, c'est un livre qui peut être vendu partout et qui permet donc à des grands auteurs d'être vendus partout. Mais simplement, ils sont vendus dans les mêmes rayons que des auteurs populaires. Et il n'y a plus donc cette scission entre littérature populaire ou livre populaire et livre légitimé. Et ce que disent les critiques, c'est que du même coup, la littérature, la culture est réduite à une marchandise. C'est Enzensberger qui était un Allemand, mais qui dit la même chose, parce qu'il se passe la même chose en Allemagne, et qui a publié un texte très connu qui s'appelle la culture considérée comme un bien de consommation. Et c'est ça qui fait peur, c'est-à-dire d'un seul coup, la culture devient une marchandise. Alors on parle d'une époque qui nous paraît incompréhensible aujourd'hui, mais c'est un débat absolument capital.
Et il faut rappeler, Mathieu Letourneux, qu'à la création du livre de poche en 1953, on propose le livre de poche dans des tourniquets.
Absolument.
Dans des tourniquets, comment on proposerait des cartes postales.
Oui.
Non, mais c'est passionnant parce que c'est pas si dépassé que ça. Le débat, il a migré vers le cinéma, par exemple, avec la notion de on va voir les films en salle, on ne regarde pas les films sur des plateformes, c'est populaire. Non, mais en fait, cette notion de préserver une espèce de noblesse de la culture et d'avoir un format, alors, le format du grand écran ou du petit écran, c'est exactement la même chose.
Allez, il est temps de retrouver le plaisir littéraire du week-end de Christine Ferniaud qui nous propose En Poche. Alors Christine Ferniaud, je rappelle que vous collaborez à Libé Polar sur libé.fr et vous nous conseillez cette semaine la lecture de Pas de littérature de Sébastien Rutès et c'est publié chez 10-18.
Et ça va tout à fait dans ce début de conversation, effectivement. Sébastien Rutès est un auteur qui écrit des choses extrêmement graves et sombres. Et là, avec Pas de littérature, il s'est offert un clin d'œil absolument délicieux au passé, au début en particulier, du polar en série noire, où le patron de la série noire disait « Surtout pas de littérature, rien que de la réalité, de la sueur, de la sueur ». Et là, son héros de Pas de littérature, Sébastien Rutès, c'est Gringoire. En fait, c'est un traducteur pour la série noire, pour d'autres, et... il ne sait pas parler anglais. Donc c'est sa femme qui traduit. Oui, mais peut-être que vous n'écrivez pas tout à fait les traductions comme Gringoire. Et je vous le souhaite, parce que Gringoire, bon, bah, il se retrouve avec une traduction. Puis il faut qu'il rajoute un petit peu des petits mots comme ça, de l'argot. Donc pour avoir des mots d'argot, il va dans les bistrots un peu fréquentés par la pègre. Et il va écouter pour rajouter dans ses livres, sans littérature, quelque chose de très vivant. Et évidemment, ça lui donne envie lui-même d'écrire des livres. Il rencontre un truand, et je ne vous raconte rien d'autre, parce que Jo le chanceux avec Gringoire, c'est un couple un peu compliqué. Donc c'est un pastiche absolument formidable. C'est vraiment les années 50, les bars clandestins, et un côté totalement farfelu, fantaisiste, mais derrière, il y a quand même une réflexion sérieuse de Sébastien Rutès sur les écrits, la contrefaçon, le mensonge, la sincérité, et c'est beaucoup plus sérieux qu'il ne paraît. C'est tout un jeu de code. Alors, je pense que certaines personnes dans cette assemblée reconnaîtront des noms cachés, des mots cachés. Mais vraiment, moi, je vous le conseille, que vous connaissiez la série noire ou pas, que vous aimiez le polar ou pas, que vous ayez des références ou pas, c'est un livre d'une drôlerie et d'une intelligence extraordinaire. Pas de littérature, allons-y.
Pas de littérature de Sébastien Rutès chez 10-18, et je vais évidemment vous le piquer à la fin de cette émission.
Il n'y en est pas question.
Christine Ferniaud, vous travaillez donc à Libé.fr, Libération, qui publie un magnifique hors-série, Polar, le tour du monde en 80. Polar, ça vient de sortir, c'est disponible en kiosque. Et pour ceux qui n'en peuvent plus, hein, de ce mois de janvier qui dure 6 mois, ça se termine heureusement aujourd'hui, un monde qui ressemble de plus en plus à une dystopie, si vous avez marre de cette grisaille, de cette froidure qui s'éternise, je vous conseille Les pensées de Pierre Dac, qui viennent de paraître au Cherche Midi, avec les aphorismes du maître de l'absurde, puisés parmi des milliers d'écrits toujours d'actualité. On y retrouve des réflexions sur la vie, la mort, l'amour, la religion, la médecine. Je vous en cite quelques-uns. Les meilleurs moments dans la vie à deux, c'est quand on est tout seul. Avez-vous remarqué que lorsqu'un homme d'État se félicite de certains résultats obtenus, il est à peu près le seul à le faire? Le racisme, c'est la leucémie du monde. Ou encore, à quoi servirait l'intelligence si l'imbécilité n'existait pas? C'est les pensées de Pierre Dac. Elle est loin d'être une imbécile, Guillemette Odissino, et son ami du vendredi.
Merci, patron.
C'est juste pour faire ça.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger, et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Alors, cher Ali, bah dans cette période dont vous parliez à l'instant, hein, cette période où il y a submersion d'indices qui nous montrent à quel point l'humanisme et la démocratie sont en forme, hein, très grande forme, je suis récemment allée retrouver un vieil ami dont j'avais fait la connaissance en poche à l'adolescence. Son prénom pourrait faire référence à un des types sans lesquels, comme l'a chanté Sardou, nous serions tous en Germanie, Winston Churchill. Alors, mon ami est donc Winston Smith, le héros de 1984 de George Orwell, un livre qui n'a pas vieilli, et c'est vraiment rien de le dire. Mon Winston vit à Airstrip One, autrefois connu sous le nom de Grande-Bretagne. Il est employé au ministère de la Vérité, et son boulot est de réécrire les archives historiques pour aligner les faits avec la propagande du parti. Donc, en gros, de fabriquer de la fake news. Et cela le chiffonne sévèrement, hein, quand même, Winston, que la pensée soit contrôlée par Big Brother. Alors il se rebelle, Winston, en achetant en secret un cahier vierge pour écrire son journal intime, ce qui est interdit, hein. Et se met à coucher avec la mystérieuse Julia, ce qui est interdit, puisque l'amour est une mauvaise connexion. Bon, je vous raconte pas la fin, mais mon pauvre Winston va sérieusement en baver. Et c'est à vous maintenant.
Et vous, Guillemette, non, parce que je savoure vos mots. Guillemette, à l'évidence, vous flippez de tous les liens entre ce roman et aujourd'hui.
Ah oui, Ali, ah oui. Parce que si ça continue, dans 2 secondes et demie, 1984 ne sera plus une dystopie. Le roman d'Orwell est sans cesse récupéré à toutes les sauces, mais ce qui est sûr, c'est qu'il parle de l'ère technologique actuelle, entre désinformation de masse et surveillance à travers des micros, des écrans. Big Musk et Big Zuckerberg are watching you. Ils collectent nos données, ils suivent nos déplacements, ils connaissent nos habitudes mieux que nous-mêmes. Dans le roman, le langage est réduit donc à la 9 langues pour limiter les pensées complexes. bah, comme aujourd'hui en fait, hein, où la nuance fond comme la banquise sous le réchauffement climatique, à cause des algorithmes des réseaux sociaux qui mettent en avant les contenus les plus forts, enfin traduction, les plus haineux. En Chine, les citoyens, alors il y a des guillemets autour de citoyens, sont notés en fonction de leur comportement. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse ? Alors, dans 1984, Winston vit dans l'Océania, hein, un pays fictif qui comprend entre autres l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, face à deux autres régimes totalitaires, dont l'Eurasia. Bah, nous, on n'est pas très loin de finir en Americana, hein, quand un président, sans rire, demande à Google de changer le nom du golfe du Mexique. Alors maintenant, je voudrais vous lire une phrase. Le monde technologique actuel ne reflète pas entièrement le cauchemar de 1984, mais les parallèles sont suffisamment alarmants pour que Winston Smith continue d'incarner un avertissement sur les dangers d'un pouvoir incontrôlé et de la perte de la liberté individuelle. Je ferme les guillemets. Alors, vous savez qui a écrit cette conclusion ?
Non.
Ben, c'est ChatGPT.
Bon.
Auquel j'ai demandé, par curiosité malsaine, à quel point l'histoire de Winston Smith était d'actualité. Donc, on en est là. Hein. C'est donc l'intelligence artificielle créée par Sam Altman, qui d'ailleurs un temps a été associé à Elon Musk, qui m'alerte sur les dangers du monde technologique. Donc, c'est un néo Big Brother qui me prévient que nous sommes en train de nous faire enfler. Bon, en attendant, évidemment, qu'il soit reprogrammé en novlangue.
Quelle mise en abîme. Et on peut lire plusieurs traductions de 1984 en poche. Hein. Il y a la traduction de Philippe Jaworski chez Folio et celle de José Camoun, également chez Folio. Et puis, il y a également chez Agon une traduction de Célia Isoar, l'ami du vendredi à podcaster sur l'appli Radio France. Dans un instant, on continue à célébrer les plaisirs du poche. Ce sera juste après avoir écouté Blur, Girls and Boys, une chanson de 1994, 10h27 sur France Inter. c'était Girls and Boys.
Ali Rebéi.
Donne-moi un numéro de bouquin, n'importe quel, au hasard.
2147.
Un amour, Buzzati.
Grand bien vous fasse.
Un autre. Vite, 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 vite.
3427.
Impression d'Afrique, Roussel.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse ce week-end et nous célébrons ce matin le plaisir de lire des livres de poche. Audrey Petit, je rappelle que vous êtes directrice générale du livre de poche. L'un des plaisirs de ce format, c'est de permettre au lecteur d'accéder à un fonds qui permet à un ouvrage de vivre sur un temps long. Et d'ailleurs, ce sont les poches qui restent essentiellement sur les étagères des libraires.
Absolument. En fait, une de nos missions consiste à pérenniser un livre, à l'inscrire dans le temps, le plus longtemps possible. Et c'est souvent le format qu'on trouve chez les gens, dans les bibliothèques, même en librairie. Et puis tout simplement, il tient moins de place. Donc on peut en mettre davantage.
Quel est le critère pour qu'un grand format soit publié en poche? C'est seulement un critère de vente?
Alors non. Alors ça l'était au départ, hein, évidemment, puisque à l'époque, Henri-Philippe Aki piochait...
En 1953.
Si je puis dire, absolument. Dans le fond des éditeurs que j'ai appelé tout à l'heure les pères fondateurs. Mais aujourd'hui, les pratiques ont beaucoup changé. Il n'y a pas un seul critère, il y en a plusieurs qui vont évidemment de notre lecture. On est des très très gros lecteurs tous, déjà dans l'édition c'est vrai, mais en poche en particulier, nos coups de cœur évidemment, et bien sûr beaucoup d'échanges avec tous nos partenaires grand format sur le potentiel d'un livre, l'enrichissement du catalogue, voilà.
Il arrive, Audrey Petit, que des livres qui ne sont pas parvenus à rencontrer leur public en grand format soient tout de même édités en poche, et comment détectez-vous un beau potentiel en poche?
Ah, c'est toute la question, Ali. Si on avait une recette, on l'appliquerait tous. Non, il y a une part d'intuition, il y a une part évidemment aussi de connaissance. Quand on fait ce métier depuis quelques temps, on connaît mieux le marché, on connaît mieux aussi les attentes des uns et des autres. Et puis on
comment vous flairez, par exemple, quand il y a un grand format qui n'a pas rencontré son public, et vous vous dites, allez, on prend le pari quand même de le publier en poche?
Alors, en fait, les choses se passent souvent en amont. Je peux prendre un exemple simple, Tout le bleu du ciel, Mélissa d'Acosta, qui est vraiment un très très gros best.
Qui a été... vendu à 10 000 exemplaires chez Carnet Nord à l'époque.
Absolument, un petit éditeur indépendant à l'époque. Et en fait, on l'avait lu quelques mois avant sa parution en grand format, et c'est vraiment sur la foi de notre lecture et d'un pari, puisque c'est ça aussi qui est intéressant, hein. On a retrouvé un peu ce rôle d'éditeur qui consiste à faire des paris, qu'on l'a acheté avant sa parution en grand format. Alors évidemment, quand il y a le succès qu'on a eu après...
Avec Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta, vous avez vendu 700 000 exemplaires. Exemplaire de ce roman au livre de poche.
Alors aujourd'hui, on est un petit peu plus.
À combien?
On doit être à 1,3 million, 1,4 million. Ouais. Ouais.
Tiens, dites-moi, vous, Christine Ferniaud, pourquoi vous êtes tombée amoureuse du poche? Parce que vous avez tenu pendant une vingtaine d'années la chronique poche à Télérama. Quel est votre lien affectif avec ce format?
Je vais vous dire une chose bien simple. Je trouve que le poche, les couvertures sont belles. Et elles sont variées. Là, effectivement, vous avez apporté dans le livre de poche, la seule maison du livre de poche, un nombre de couvertures aussi différentes que possible. Donc, je trouve ça très beau. Là le Sébastien Rutès dont je vous parlais, la couverture, elle est graphique. Et puis, d'un autre côté, on aura une photo. Et puis, il y aura un dessin. Et puis, il y aura simplement une couverture noire. Et ça, moi... En fait, comme une petite fille, vous parliez de bonbons, mais moi, quand je regarde les couvertures des poches, ça aussi, ça compte. Et par exemple, je me souviens de Pavillon Poche, couverture magnifique, d'une très grande élégance, à côté de livres, au contraire, hyper flashy. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup touchée pendant des années.
Et vous avez totalement raison, Christine Ferniaud. L'un des grands plaisirs du poche, c'est à la fois la couverture, le graphisme, la composition du texte, la typographie, la qualité du papier. Je trouve qu'il y a une très grande créativité dans les éditions de poche, Audrey Petit. Et la sélection que vous nous avez amenée en atteste.
C'est vraiment une partie du plaisir de ce travail aussi. C'est-à-dire que nous, on a la chance, au Livre de Poche, d'avoir un studio avec une directrice artistique, une iconographe et quatre graphistes qui font la plupart des couvertures du Livre de Poche. Et surtout, on a une approche extrêmement spécifique par auteur, par univers, même s'il y a des collections, évidemment. On a une collection policier-thriller, une collection littérature classique. Générale, classique, absolument. Et elles ont chacune un peu leur spécificité, mais... au sein de ces collections, on aime la diversité, on aime l'approche au cas par cas, parce qu'une histoire n'est pas équivalente à une autre et qu'il faut dire les choses sur la couverture.
C'est devenu donc le poche un objet esthétique. Prenons l'exemple de cette édition collector absolument magnifique, hein, des fourmis de Werber, qui est sortie en septembre ou octobre dernier. Racontez-nous ce que vous avez fait de ce poche devenu collector. Racontez ce qu'on voit là, ce que j'ai sous les yeux.
Alors, au départ, Les fourmis de Bernard Werber est un titre devenu culte, réellement. C'est vraiment un titre emblématique du catalogue du livre de poche. Il avait 30 ans, un peu plus, 33 ans, et on avait très très envie de proposer une édition collector en poche, c'est-à-dire avec une couverture en dur. Nous avons même été jusqu'à ne pas mettre le titre sur la couverture, mais bon, il y a des fourmis, donc ça nous semblait assez clair. On a également, avec évidemment l'accord de Bernard Werber, enlevé son prénom, donc on a juste Werber.
Mais racontez-nous là, le lettrage doré, je ne sais pas comment on appelle ça.
Le jaspage. Alors le jaspage, c'est quand...
Expliquez ce que c'est.
Alors c'est la tranche du livre, donc les pages, qui sont recouvertes d'une pellicule de couleur qu'on peut également agrémenter avec des motifs.
Et là, il y a des fourmis qui se baladent.
Absolument. Voilà, en lien avec évidemment le livre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jaspage, dans les premières années du livre de poche, il y en avait systématiquement. Et quand vous avez tous, je pense, des livres de poche dans vos bibliothèques, vous avez du jaspage. Rouge, orange, jaune. Et au fur et à mesure, ça a été ça a été laissé de côté. Et donc, le jaspage, aujourd'hui, est devenu très cher, puisque c'est rare. Mais ça revient beaucoup à la mode sur les éditions collector, et on le retrouve.
Le regard du professeur en littérature, Mathieu Letourneux.
Oui, il y a une chose qui est très intéressante dans cette histoire de la singularité des couvertures, c'est qu'il y a eu une vraie bascule historique dans les années 80-90, de collections de livres de poche qui avaient tendance à être standardisées, avec des couvertures extrêmement marquées, et vers un processus de singularisation. C'est au même moment, d'ailleurs, qu'on a vu ressurgir dans les collections populaires, dans les collections de littérature de type polar, etc., les grands formats. Parce qu'on a cessé d'être attaché vraiment à une collection. D'ailleurs, à ce moment-là, les livres ont cessé d'être classés par collection dans les librairies. Avant, vous aviez un rayon livre de poche, un rayon folio, etc. C'est terminé. Alors, c'est intéressant parce que c'est le moment où on s'est mis vraiment dans tous les domaines de la littérature à chercher la singularité. On aime un certain auteur de polar, on aime un certain auteur de science-fiction, on aime plus personne dit j'aime le roman d'amour en général, mais on aime tel auteur ou tel auteur. Et c'est pour ça qu'il y a des auteurs qui ont explosé comme Guillaume Musso, Marc Lévy. Et donc ces nouveaux formats, ces formats collector, ces formats singuliers, c'est un rapport complètement différent à la littérature qui mettent en évidence, et le livre de poche le manifeste.
Et on peut citer d'autres collections que le livre de poche, Folio évidemment, J'ai lu, qui a fait un gros travail aussi de qualité aussi sur les couvertures sur le papier, 10-18, et puis aussi Pocket, Guillemette Odissino.
Il y a un truc aussi, je crois qu'on n'a pas dit, c'est que dans l'enfance, quand on se met à lire la première fois, alors on peut avoir la chance d'avoir nos grands-parents qui ont une bibliothèque avec des vieux, des vieilles éditions Gallimard, couleur beurre frais, etc., c'est magnifique et tout, mais à l'école, qu'est-ce qu'on lit en premier ? On lit les classiques et on les lit en livre de poche. Et à partir de là, le rapport, il est quasiment, il est dans l'enfance. La littérature, c'est le livre de poche à partir du moment où on commence à lire.
Et nous accueillons Corinne. Bienvenue Corinne.
Oui, bonjour.
Vous avez appelé au standard. Quel est votre rapport quasi charnel avec le livre de poche ?
Ah oui, c'est pas quasi, c'est carrément, déjà, moi, depuis que je sais lire, on va dire, c'est ce qui me maintient même. C'est ce qui me maintient, c'est ce qui tout. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai pas Internet, j'ai pas de smartphone, j'ai pas de télé, et je vis très bien. L'anecdote que je vais vous raconter là, vous gentils standardistes, c'est que bon, j'étais à la rue pendant quelques années, bref. Et donc voilà, moi, priorité, je mets des livres donc de poche dans mon sac à dos, forcément. Et donc là, les copains que je rencontre, ils me disent « Attends, mais t'es complètement folle, tu vas pas tenir avec les bouquins comme ça dans ton sac à dos, c'est hyper lourd, tu vas pas y arriver. » Alors c'est vrai qu'il y a eu des fois où j'ai eu des choix un peu cruciaux à faire, entre une boîte de cassoulet ou Syntex, Alors c'est vrai que c'est arrivé que j'ai un petit peu moins mangé qu'eux, on va dire au niveau des nourritures bien terrestres, comme vous dites. Mais par contre, voilà. En termes de nourriture spirituelle, heureusement, j'ai toujours eu ma dose et c'est ce qui m'a sauvé, je le dis vraiment, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Parce que je pense que si j'avais pas eu mes livres et si je m'étais pas accrochée aussi désespérément à tous ces auteurs fantastiques, je pense que j'aurais pas supporté cette épreuve, par ailleurs assez pénible quand même, d'être à la rue. Voilà, je voulais
merci, c'est un magnifique témoignage, Christine Vergniaud.
Ah oui, c'est extrêmement émouvant.
Il y a des gens qui sont mis à lire aussi grâce à moi et ça, c'est vachement chouette aussi. Vive les livres de poche.
C'est extrêmement émouvant et c'est vrai que les livres de poche, il y a une chose aussi, c'est que comme le disait Mathieu, ce sont des livres qu'on laisse sur un banc, qu'on peut retrouver facilement, qu'on peut acheter pour 3 francs 6 sous. Ah, je fais mon âge avec 3 francs 6 sous, là, excusez-moi. Mais c'est vrai.
C'était ça.
Et donc, c'est pas cher. Donc, c'est vrai que c'est cette culture qui passe de main en main, c'est très beau avec le poche.
Vous nous avez émus. Vous savez Corinne, on va vous envoyer une sélection de livres de poche. Laissez-nous votre adresse, on va vous envoyer ça. On va vous envoyer ça. Laissez-nous.
Adorable.
Eh ben, on va vous envoyer ça, Guillemette.
Ah non, c'est vous qui êtes adorable. Non, mais bon, j'ai les larmes aux yeux. Pourquoi tu me fais parler à lire?
Merci. Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, juste.
Alors, en plus, Guillemette Audissimo, je l'adore. C'est vrai, vraiment.
Laissez-nous vos coordonnées. Merci pour votre très beau témoignage, Corinne.
Merci beaucoup.
Thibaut.
Non, pour laisser passer, bon, voilà l'émotion. Mais il y a des choses qui sont surprenantes quand on regarde dans le détail. Je ne vais pas faire trop le geek de l'édition, mais surtout qu'il y a des spécialistes à côté de moi. Mais j'ai toujours été surpris. Il y a une édition qui est très prestigieuse en France, qui s'appelle l'édition de la Pléiade.
Ah, oui.
Alors on trouve que c'est vraiment des livres, ils sont hyper chers, ils sont hyper beaux, et c'est un format poche. Et ce qui est drôle, c'est que bien souvent, en fait, en poche du même éditeur, eh bien, on a le même texte, la même traduction.
1984, par exemple, la traduction de Philippe Jaworski, cette traduction-là est tirée de l'édition de la Pléiade.
Voilà. Oui. Et alors, il y a des mises à jour, etc. Mais donc, il faut en fait être un peu moins attaché aux hiérarchies et regarder le détail.
Alors, le poche est un magnifique cadeau. En deux mots, quel est le poche que vous aimez offrir, Audrey Petit?
Alors, moi, j'offre très volontiers Rebecca de Daphné Du Maurier. Voilà.
J'adore ce livre.
Bah oui, c'est incroyable.
Rebecca de Daphné Du Maurier, vous, Mathieu Letourneau?
Moi, j'aime offrir les essais sur l'art de la fiction de Stevenson. Stevenson, l'auteur de Dr. Jekyll et Mr. Hyde et de L'île au trésor, mais ses essais sur l'art de la fiction, je vous les recommande, ils sont extraordinaires.
C'est en poche, hein?
En poche.
Et vous, Christine Vergniaud?
Alors moi, j'aime énormément offrir Indian Creek de Pete Fromm, qui est publié d'ailleurs dans cette très jolie collection Totem qui dépend de Gallmeister, parce que c'est un livre initiatique, c'est la nature, c'est un peu le ridicule quand on croit qu'on peut vivre comme un sauvage et qu'en fait, c'est pas facile.
Et vous, Guillemette?
Bah alors, en ce moment, j'inonde littéralement toutes mes connaissances de l'essai, enfin, que je trouve vraiment essentiel en ce moment, de Jean Birnbaum, qui s'appelle Le courage de la nuance.
Ah ouais, c'est un très bel essai. Le courage de la nuance de Jean
Lisez
Birnbaum.
Lisez Le courage de la nuance.
Julie Neveu.
Mais moi, j'ai envoyé très récemment, parce qu'on peut aussi les envoyer par la poste, on l'a pas dit, mais dans la circulation, il y a ce truc dingue, quoi. Tu glisses un livre de poche dans une enveloppe. Et donc, j'ai envoyé Stormbreaker, c'est-à-dire le premier de la série Alex Rider par l'écrivain anglais Anthony Horowitz. C'est complètement génial, littérature jeunesse, adolescence, et ça marche très
bien. Anthony Horowitz, c'est le titre.
Stormbreaker, c'est le premier, c'est la série d'Alex Rider.
Thibaut de Saint-Maurice.
Moi, des petites poches de philosophie, pardon. mais par exemple, il y en a deux, Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, voilà, et Les puissances de la douceur d'Anne Dufour-Mantel. Ah oui. Ça marche toujours très bien, c'est voilà.
Et vous, Angèle Ferrand?
Moi, alors, pas des livres de poche, mais des livres qu'on peut glisser dans la poche. À l'opposé des livres jetables, c'est les précieux livres de la collection des éditions de l'Épure, pardon. Le zeste, la carotte, la châtaigne, l'huître, les plats qui font péter, qui est toujours drôle à offrir aux personnes, qui est d'une élégance folle d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc la reliure est au fil de lin, c'est façonné à l'ancienne. Donc le haut et le bas des pages sont pas découpés, il faut se munir d'un coupe-couteau. D'un coupe-papier, pardon, ou d'un couteau pour avancer dans la lecture.
Et pour ma part, moi, j'adore offrir Les consolations de la philosophie de l'anglais Alain de Botton chez Pocket, ou La petite philosophie de l'amour du même auteur, Alain de Botton, chez J'ai lu. 11h moins le quart, matin, il est temps de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, rend bien vous face.
C'est pas un truc d'intello, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors Thibaut, en ce dernier jour du mois de janvier, vous venez de faire le point sur nos fameuses bonnes résolutions.
Oui, prises donc il y a tout juste un mois, 30 jours, en ce matin gris, froid et venteux du 1er janvier 2025. Alors on a dit je me remets au sport, à la lecture ou à parler à mon frère, j'arrête de fumer, de boire ou de manger ceci ou cela. Allez, c'est décidé, je me couche tôt, je n'achète plus que de l'occasion, je ne prends plus l'avion et je saisis chaque occasion de dire à ceux que j'aime que je les aime et toutes les semaines de dire qu'Ali est formidable. La liste est longue.
Vincent, on n'a pas oublié.
Voilà, de tout ce que nous avons décidé, voulu et mis en œuvre pour que ce début d'année nous offre réellement l'occasion de changer et de un peu gagner, regagner de cette confiance en soi qui est si nécessaire à l'équilibre de nos vies ordinaires. Alors, un mois après, bilan. Que reste-t-il de notre bonne volonté ? Certains et certaines parmi nous tiennent bon et d'autres ont lâché ou vont bientôt lâcher ou s'épuisent encore dans des tergiversations sans fin. Alors d'où vient que cela soit si difficile ? Pourquoi notre motivation qui semblait si forte et si essentielle au début du mois nous paraît désormais bien fragile ? Et pourquoi certains s'en sortent-ils ? Et pas nous.
Sans doute parce que notre volonté n'est pas si bonne qu'on le croit, Thibault.
Alors exactement, à défaut d'avoir réussi à faire preuve de volonté, comme on dit, on en vient à découvrir notre mauvaise volonté. Une mauvaise volonté, ce n'est pas une volonté de faire le mal ou d'être méchant, mais c'est une volonté faible, qui ne veut pas si bien que cela, qui n'a pas finalement les moyens de ses ambitions. Alors comment penser cette faiblesse de notre volonté ? Cette question, c'est le terrain sur lequel s'affrontent deux grands philosophes classiques, à ma gauche Descartes et à ma droite Spinoza. Pour Descartes, donc, nous sommes pourvus d'une volonté absolue. Et si notre motivation pour le sport paraît faiblir, ce n'est pas que nous avons du mal à vouloir, mais c'est tout simplement que nous ne voulons plus en fait faire du sport ou que nous voulons en fait plutôt faire la grasse matinée à la place. Nous avons donc changé de motivation, notre volonté absolue est la faculté de notre libre arbitre. De l'autre côté, l'ami Spinoza pense que si nous trouvons notre volonté faible, c'est tout simplement parce que eh bien, nous n'en avons pas de volonté. Nous croyons disposer d'une volonté alors que nous ne sommes que traversés par des désirs plus ou moins forts et plus ou moins joyeux ou tristes. Alors si nous ne tenons pas nos résolutions, c'est parce que nous avons cru que cela dépendait seulement de nous, que c'était juste une question de volonté. Notre libre arbitre, en fait, n'est qu'une illusion et nos motivations nous dépassent. Alors, on pourrait en rester là et penser que notre motivation est bien compliquée et qu'on hésite entre donc Spinoza d'un côté, Descartes de l'autre. Mais on peut aussi aller un peu plus loin et penser que donc, à travers leur opposition, Descartes et Spinoza nous apprennent pourtant la formule secrète de notre motivation. Ce n'est donc pas tant le sujet d'avoir du pouvoir sur soi, quelque chose qui serait la volonté, mais le sujet c'est d'avoir plutôt un savoir sur soi, quelque chose comme une connaissance de soi. Nous sommes toutes et tous traversés par des désirs, des envies, des projets et donc des résolutions. Certaines nous semblent venir de nous, du plus profond de nous, et d'autres, nous le savons bien, elles viennent de celles et ceux qui nous entourent, de notre milieu social, de notre époque, de nos névroses, de nos négociations en tout genre. Mais dans les deux cas, il y a toujours une raison ou une cause à identifier, à apprendre à connaître, qui se cache parfois sous du déni, de la mauvaise foi, de l'ignorance ou de l'inconscient. L'important donc, au fond, n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de savoir ce que l'on fait. Pas de pouvoir sur soi sans savoir de soi. Nous avons les 11 mois qui viennent pour apprendre à mieux nous connaître et prendre de nouvelles résolutions en janvier prochain, ou pas.
Vous, Guillemette, vous avez tenu vos résolutions ?
Lesquelles ?
voilà. Merci
non, mais non, mais moi je trouve ça extrêmement intéressant. Parce que maintenant je vais pouvoir dire, en pleine conscience, je me connais tellement bien, je sais que je suis incapable de tenir des résolutions.
La c'est chronique philo de Thibault de Saint-Maurice à réécouter en podcast sur l'appli Radio France. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres d'Angèle Ferremag, de la guinguette d'Angèle. Angèle Ferremag, chef donc de la guinguette d'Angèle et autrice chez Marabout de ma cuisine végétarienne. Ce matin, une soupe chinoise pour fêter le nouvel an chinois.
Oui, ça s'appelle le congee. C'est un plat traditionnel chinois dont on trouve d'ailleurs des adaptations dans le monde entier. Absolument dans chaque pays, on trouve dans lesquels il y a du riz, on trouve cette soupe. Donc c'est comme un porridge, une soupe un peu onctueuse à base de riz et de bouillon d'os. Donc déjà, c'est excellent pour la santé, très riche en collagène, hydratant, ça contient plein de nutriments, c'est hyper digeste. Et c'est très souvent utilisé quand on a un petit rhume, une petite maladie, une petite gastro, on donne du congee aux enfants, enfin à tout le monde. Donc là, c'est, en ce moment, c'est pas mal. Ou alors, après un repas très copieux, on mange du congee pendant quelques jours. mais c'est délicieux, je vous assure. Et autour de cette table, tout le monde peut en témoigner.
J'adore, c'était très très bon.
Alors, pour 4 personnes, vous allez rincer un volume de riz, idéalement du riz à grains courts, donc à peu près 150 grammes. Vous le rincez jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. Ensuite, dans une casserole, vous ajoutez le riz et 10 volumes de bouillon d'os, ou alors de bouillon de légumes. Les bouillons d'os, vous savez, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est très très riche en collagène. On peut les faire avec des carcasses de poulet, avec des os de... Vous demandez à votre boucher, c'est gratuit, des os, et vous faites votre stock pour faire des risottos, cuire les pâtes, etc. C'est vraiment délicieux. Vous portez à ébullition, vous réduisez un peu le feu, et là vous laissez mijoter pendant une bonne heure, tout en remuant. Ensuite, vous allez préparer la sauce. Alors pour la sauce, vous mélangez 2 cuillères à soupe de sauce soja ou de tamari, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz, et si vous avez de l'huile pimentée. Vous mélangez tout ça. Vous sortez votre soupe, donc je vous conseille de la servir par bol. Ça peut d'ailleurs être un repas très facile à faire quand il y a des gens qui viennent dîner et que vous n'avez pas d'argent ou pas le temps. C'est hyper efficace. Donc, dans les bols avant de servir, vous disposez une cuillère de votre petite sauce délicieuse. Et puis, vous pouvez ajouter, alors là, ce que vous voulez, un œuf poché coupé en deux, des oignons frits, des cébettes, du zeste de citron, des herbes fraîches, du poulet... Et moi, pour renforcer les saveurs, j'adore compléter avec du zeste de citron. Là, je vous ai mis du citron vert et un petit peu d'huile de coco.
Eh bien, merci beaucoup, Angèle Ferremag. On peut retrouver cette recette sur votre compte Instagram, le compte de la guinguette d'Angèle, et sur l'appli Radio France. Merci beaucoup. Ça va, ça vous plaît, Guillemette ?
Ah oui, à moi qui suis plutôt...
Vous êtes ma boussole ce matin.
Oui. Non, mais moi, normalement, ce genre de plat, ça m'effraie toujours un peu. C'est super bon, hein. Non, mais vraiment, super.
Allez,
bon.
Dans un instant, la chronique avec la langue de Julie Neveu, juste après avoir écouté le nouveau titre de Zao de Sagazan, Parler l'amour.
Découvre-toi, couvre ma bouche comme l'autre fois. Tu descends, quelle bonne idée de parler l'amour, parler d'amour, parler l'amour, je veux parler d'amour, avec toi, pas plus bas, là c'est bien.
Zao de Sagazan interprété, Parler l'amour.
L'aigle va fondre sur la vieille buse.
France Inter.
C'est chouette comme métaphore, non ?
Grand bien vous fasse.
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Enfin, pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
Ma chère Julie Neveu, honorable maîtresse de conférences en linguistique à la Sorbonne, vous désiriez nous parler d'une mode des insultes.
Oui, allez, les insultes, mais pas par les êtres vivants, hein, par les objets. Par exemple, la tasse du petit déjeuner, vous buvez tranquille votre café et hop, tiens, bah, qu'est-ce qu'il y a écrit au fond ? Alors attention, je vais dire beaucoup de gros mots, mais c'est pas moi, c'est la tasse. Bonjour connasse. Ok, le matin, de but en blanc. Bah, alors, si vous permettez, Ali, je fais un petit retour en arrière. On est le 23 décembre 2024, et je suis à la bourre pour mes cadeaux de Noël. J'entre dans les boutiques, je dirais pas dans quelle grande ville de France, et là, bah tiens, j'aperçois des jolies assiettes, genre avec des fleurs entrelacées, couleur pastel. Je me dis, waouh, super, ça va être bien pour ma belle-mère, ça. Je m'approche, et là, misère, au beau milieu de l'assiette, en lettres ourlées et délicates, je lis « fuck off ». Fuck off, donc va te faire foutre, va te faire foutre. Ok, ok. Interdite, j'ai dû me tromper de boutique, il y a peut-être un panneau SM en bas de l'enseigne, tu vois. Bon, je sors, je vais dans une autre en face. Tiens, des jolis mugs. Ouais, chouette, je me penche. Qu'est-ce que je lis ? Sale pute. Ok, ok. Bon, je commence à flipper, je sors de la boutique précipitamment. Là, je me cogne à un type, il est chic avec un long manteau qui s'ouvre sur un t-shirt noir. Et sur le t-shirt, en lettres dorées, au-dessus d'un dessin de Bambi, il y a écrit « Son of a bitch ». Donc, fils de puce, mais tu vois, détourné mignonnement en Bambi. Hein ? Alors, à ce stade, je vais mal, je laisse tomber les cadeaux de Noël, tant pis pour ma belle-mère. J'avise une pizzeria. Une pizza, c'est bien. Ça va me redonner des forces. Alors j'entre, je m'assois, on me donne le menu, je regarde, et là, Ali, je n'invente rien. J'ai le choix entre la pizza hot like fuck, donc genre grosse chaudasse, et la putain de Kelson à l'œuf bio.
Ah oui.
La putain de Kelson à l'œuf bio, Ali, donc voilà. Alors j'arrête la liste, je remercie au passage les habitués du RIE Marco Polo pour leur enquête documentaire. Alors donc, pourquoi tant d'insultes ? Oui, pourquoi tant d'insultes marquées sur les choses ? Les insultes nous donnent-elles envie d'acheter ? Bon, en fait, c'est assez simple, hein, vous en doutez. Et puis d'ailleurs, derrière un article, d'après un article de Vogue américain de l'automne 2016, c'était déjà le pic de la fashion insulte à l'époque sur les vêtements. On a donc presque 10 ans de retard en France. Alors pour commencer, le marketing, les marques, comme on sait, ont pour principal objectif de se faire remarquer. Une insulte, c'est marqué, ça se remarque. C'est d'autant plus marqué que c'est transgressif, c'est-à-dire qu'il y a franchissement de limites. Si je vous pourris d'insultes, par exemple, Ali, du matin au soir, vous n'y ferez plus attention, il n'y aura rien de remarquable en fait. Mais si je suis super poli, qu'un matin j'arrive, je dis « Bonjour, connard !» Ça va faire bizarre.
Et vous passez à la compta.
Je passe à la compta. Et ça me rappelle une autre anecdote personnelle, une vraie celle-là. On faisait la lecture avec les comédiens d'une de mes pièces au Théâtre Saint-Georges, devant l'ancienne directrice du théâtre, une dame très propre. Très propre sur elle, quoi. Elle écoute, elle sourit un peu. Bon, il y avait quelques merdes lancées ici et là par mes personnages. La lecture se termine, on est plein d'espoir. Est-ce qu'elle va nous programmer ? Gros suspense. Là, elle me regarde et elle dit « C'est bizarre qu'une jeune femme aussi jolie écrive une pièce aussi vulgaire. » Et là, bon, bah, je comprends, un, que c'est foutu, deux, que j'aurais mieux fait d'être un mec injurieux ou de venir en sac poubelle plutôt qu'en jupe, parce que elle aurait été moins choquée. Donc j'étais un peu comme l'assiette avec au milieu « fuck off » en lettres fleuries. Bon, et donc il y a d'abord la stratégie de marque. Marquer les esprits, exploiter le côté transgressif ordinaire des insultes. Et puis il y a aussi quelque chose que la mode exploite, c'est un fait plus sociolinguistique. C'est le sentiment d'appartenance au groupe. Dans un groupe, entre amis, on peut s'insulter à la cool, sans la dimension émotionnelle, expressive et insultante des insultes. Ça renforce la connivence, genre « salut connard, ça va ?» C'est un code qui fonctionne comme un entre-soi. Hein, l'insulte est ludique, hype et communautaire. S'en offenser, c'est montrer qu'on n'a pas le code, qu'on est un loser. En fait, les insultes, comme les mots doux, abolissent les distances. Souvent pour le pire, mais parfois pour la hype. Alors, ça fait pas un peu plaisir, ça, bande de feignasses qui écoutaient la radio au lieu de bosser, espèce de fils de biche ?
Et j'aime beaucoup le son of a biche. Ça, c'est, ouais, ça, c'est magnifique. La chronique avec la langue de Julie Neveu a podcasté sur l'appli Radio France. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse Week-end. Merci aux amis du vendredi, Julie, Angèle, Guillemette, Christine et Thibault. Merci beaucoup, Audrey Petit, directrice générale du Livre de Poche, et Mathieu Letourneux, professeur de littérature à Paris-Nanterre. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Lisiane Larbani, Lucie Grandet-Lavigne, avec l'aide d'Antoine Poitras, à la réalisation Claire Destacan, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Et merci à notre auditrice Corinne, formidable. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Et lundi, on s'intéresse aux dernières innovations pour lutter contre le cancer.
Grand Bien Vous Fasse, un podcast France Inter.